Plus une semaine ne passe sans qu'une étude scientifique ne soit publiée sur les maladies liées à la pollution chimique. Des milliers de substances ont envahi notre quotidien, qualité de l'air, alimentation, polluants contenus dans les cosmétiques ou dans les meubles. La liste est longue, mais heureusement, il est aussi possible de changer nos habitudes en limitant notre exposition à ces substances nocives. Et c'est justement le dossier de notre tête au carré cet après-midi avec mes invités qui vont nous donner des clés indispensables afin donc de se protéger de ces molécules de synthèse qui se chiffrent en centaines de milliers. Toutes vos questions dès maintenant sur le site de la tête au carré franceinter.fr et les messages courts avec le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, une étude qui fait frémir au sujet de l'évolution de la biodiversité marine. Bonjour à vous.
Bonjour. Alors sur le monde, des chercheurs français et anglais, avant la fin du siècle, entre 80 et 95% des espèces marines pourraient subir les effets du réchauffement climatique. On en parle avec nos invités et comme tous les jours avec vos questions sur Twitter.
Tête au carré réalisé aujourd'hui par Joseph Carabalona et préparé par Fanny Cohen-Moreau et Thomas Delosier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Comment éviter donc notre exposition aux substances chimiques? Ce sera le dossier dans quelques minutes de l'émission. Pour en parler, Patrice Salimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Aix, en Provence. Vous êtes chirurgien pédiatre, secrétaire général de l'association Santé Environnement France et vous publiez La Grande Détox, comment éviter les poisons du quotidien chez Kalman Lévy. Et puis à mes côtés en studio, le professeur Michel Aubier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue à l'université Denis Diderot Paris 7 et chef du service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris. Et vous avez, vous, publié en 2013 L'homme malade de son environnement. Patrice Salimi, est-ce qu'on peut vraiment échapper aujourd'hui au bombardement chimique auxquels nous sommes exposés tous les jours, avec plus de 100 000 substances répertoriées, je crois. Hein.
Oui, à peu près. Non, en fait, le mot échapper n'est pas très bon, parce que non, on n'y échappe pas. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut en diminuer la pression pour ne pas être malade, tout simplement.
C'est l'objet de votre ouvrage. Hein.
Exactement, en fait. L'idée, c'était que j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup des polluants, on parlait beaucoup de la chimie, et on parlait beaucoup moins de nous, vous, moi, en tant que pollués, et de ce qu'on pouvait faire. Vous savez, on est souvent dans une détresse du présent, c'est-à-dire on vous raconte que c'était mieux avant, que ça sera parfait après-demain, mais aujourd'hui, ici, moi, on me laissait un peu, j'allais dire, triste. Donc en fait, grâce aux mamans qui font partie de ma vie, puisque je suis chirurgien pédiatre et je les rencontre, elles me posaient des questions excessivement prégnantes. Mmh. Et je me suis dit, ben, c'est le moment d'y répondre avec un objectif. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici, maintenant, sans attendre rien de personne?
Il y a des clés, vous allez nous les donner donc d'ici quelques minutes. Michel Aubier, on entend souvent dire que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, notamment à cause des produits ménagers. C'est vrai ça?
C'est vrai que l'air intérieur est très pollué et le problème, c'est qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur des locaux. On est 90% de notre temps dans des locaux dans les grandes villes. Mmh. Et donc exposé à ces polluants chimiques à l'intérieur des locaux qui sont multiples également et qui peuvent avoir des effets extrêmement délétères.
Qu'est-ce que vous pensez de ce studio dans lequel nous parlons et qui n'a pas de fenêtre vers l'extérieur ni d'aération? Enfin, s'il y a un peu de clim. Mais...
Ben, j'espère que la clim est bien entretenue et qu'elle ne nous vaporise pas un certain nombre de petits champignons ou d'allergènes là, auxquels on serait sensibilisés et qui nous créeraient des petits ennuis, notamment des crises d'asthme.
Bon, on pourrait faire des petits relevés pour en savoir plus. En tout cas, on va se retrouver dans un instant pour explorer ensemble et traquer ces substances chimiques et les questions des auditeurs qui arrivent bien sûr sur le site de la Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, l'avenir de plus en plus sombre pour la biodiversité.
Il y a 65 millions d'années, il y a un changement très brutal qui se passe à cette période-là. On appelle ça une extinction massive. Des crises comme celle-là, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la Terre. On en relève 5, en fait. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la 6e extinction.
Et vous avez reconnu la voix d'Hubert Rivski en 2012, hein, évoquait donc cette 6e extinction de masse. Les scientifiques maintenant la mesurent, la voient venir. 95% des océans du globe pourraient d'ailleurs subir d'importantes modifications d'ici la fin du siècle, si rien n'est fait pour endiguer le réchauffement climatique. Voilà donc en substance l'une des conclusions d'une simulation. On va vous expliquer comment ça fonctionne, publiée aujourd'hui dans la revue Nature Climate Change. Et pour en parler, on reçoit celui qui a dirigé ce projet pour le CNRS, Grégory Beaugrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au laboratoire Océanologie et Géosciences. Vous êtes également membre du GIEC. Et puis, toujours par téléphone, Gilles Boeuf, bonjour.
Bonjour.
Biologiste marin, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Gilles Boeuf. Grégory Beaugrand, d'abord expliquez-nous comment vous avez travaillé sur un espace aussi vaste et mal connu que les océans de la planète pour en tirer des conclusions pour le futur de la biodiversité marine.
Oui, en effet, cet espace est mal connu. Nous avons inventorié à peu près 250 000 espèces marines, sachant que la biodiversité réelle est estimée aux alentours de 2 millions.
Alors 250 000, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'inventaire.
Oui, à peu près, d'accord. Oui, effectivement, oui. Et donc, il nous reste 90% des espèces marines à inventorier, hein, selon certaines estimations. Mm-hmm. Et c'est sur les 10% d'espèces que nous connaissons encore assez mal leur biologie et leur changement, leur distribution spatiale. Donc c'est la raison pour laquelle il est très difficile actuellement d'essayer d'anticiper les effets du changement climatique sur la biodiversité. Donc nous avons utilisé une approche originale en recréant cette biodiversité grâce à une nouvelle théorie que l'on a appelée la théorie métal. C'est une théorie qui part du postulat suivant. Les espèces sont en général en équilibre avec leur environnement. Si on accepte ce postulat, on peut alors générer des espèces théoriques, chacune ayant des propriétés différentes, des biologies différentes, et donc des réponses uniques face au changement climatique. Et on leur a permis, comme dans un jeu vidéo, de peupler nos océans progressivement et de reconstituer la biodiversité.
Donc pour bien comprendre, Grégory Beaugrand, c'est quasiment oui. Effectivement un jeu virtuel de modélisation sur voilà. des espèces qu'on ne connaît pas.
Hein. Tout à fait, basé sur la théorie, sur des théories macrobiologiques, sur l'organisation de la vie dans les océans.
Gilles Boeuf, des espèces imaginaires, hein, c'est de ça dont on parle, des simulations mathématiques. Ça nous renseigne, à votre avis, bien sur l'avenir qui s'assombrit de jour en jour, visiblement ?
Ah ben c'est un très bel outil, puis moi j'aime bien ce que fait Grégory depuis longtemps. Bon, par contre, j'aime pas trop associer un nombre d'espèces à la biodiversité. Je dis souvent, la biodiversité, c'est surtout pas un catalogue d'espèces. Ça ne diminuera en rien le travail qu'a fait Grégory, hein. Mais j'aime pas qu'on dise un nombre d'espèces à la biodiversité. La biodiversité, c'est beaucoup plus un ensemble de relations entre les espèces. Pour revenir à l'approche, sans approche comme ça, on peut pas faire grand-chose aujourd'hui. On a une série d'articles il y a une semaine publiés dans Science, vous avez dû en parler, sur le retour de Tara Océan. Mm-hmm. Il nous ramène à peu près presque 1 million. De séquences de petits ARN, alors sans les transposer en espèces tout de suite, on va multiplier déjà par 4 le nombre d'espèces marines connues. Donc vous voyez que sur des groupes qu'on n'avait jamais regardés, qu'on appelle les protistes, hein, qui sont... En fait, on connaît assez bien les bactéries, on connaît assez bien les macro-invertébrés, les poissons, mais on ne connaît pas les petits champignons, les levures. On se rend compte que l'océan en est très riche. Ça sera encore plus important pour les sols. Donc ces approches-là sont très intéressantes pour faire des travaux globaux.
Grégory Beaugrand, si on suit vos résultats et si rien ne se passe au niveau du réchauffement, les conséquences peuvent être gravissimes.
Écoutez, nous avons estimé dans un premier temps l'effet de la variabilité climatique naturelle sur la biodiversité. Et on a pu mesurer que 5% de la superficie de l'océan est subie des modifications de biodiversité importantes lorsque en cas de variabilité naturelle, c'est-à-dire si on a un événement de type El Niño, on a à peu près 5% de la superficie des océans qui subissent une modification biologique significative. Ensuite, on a mesuré l'effet du changement climatique pour la période 1960-2013 et on a pu montrer qu'on avait à peu près 30% de la région océanique, de l'ensemble des océans qui pourraient subir des modifications assez importantes. Donc ça c'est 30%, c'est soit 6 fois la variabilité naturelle. Donc ça c'est ce qui s'est
déjà passé.
Véritablement produit. Ensuite, on a essayé de voir ce qu'il pourrait se produire d'ici la fin du siècle. Et ce qu'il pourrait se produire d'ici la fin du siècle dépend essentiellement du degré du réchauffement. Si on maintient le réchauffement en dessous de 2 degrés, on aura 40% de la superficie des océans qui montreront des changements substantiels de biodiversité.
Déjà 40%, hein.
Déjà 40%, et c'est là l'objectif de la 21e conférence des parties qui aura lieu à Paris en décembre. Par contre, si on ne maîtrise pas le réchauffement,
donc au-delà de 2 degrés,
aurons, Mmh. Oui, nous aurons entre 80 et 95% de la superficie globale des océans qui pourrait montrer des changements biologiques majeurs. Et Gilles Boeuf, tout à l'heure, avait raison de préciser qu'il ne s'agit pas que d'augmentation, de diminution d'espèces. Nous l'avons mesuré aussi par rapport aux variations d'abondance attendues pour chacune des espèces dans toutes les régions du monde.
Alors, est-ce que le terme d'extinction de masse, Gilles Boeuf, est approprié dans ces cas-là ou pas du tout ?
Alors, non, pas encore. Si vous voulez... Si vous regardez les chiffres de l'UICN, aujourd'hui, en 4 siècles, ils nous disent 800 espèces continentales de disparues, 18 dans l'océan. Bon, bien sûr, ce chiffre paraît ridicule parce qu'on a regardé très peu de choses. Et aujourd'hui, à l'échelle humaine, pour moi, c'est pas tellement un problème d'extinction actuellement, c'est un problème d'effondrement du nombre d'individus des populations. Mmh. Grégory le dit bien. Par contre, si on ne sait rien, ça va arriver à des extinctions d'espèces. Mais à l'échelle humaine, c'est très difficile. En plus, il faut reconnaître que pour un biologiste marin, dire qu'une espèce a disparu de l'océan, c'est quand même pas si simple. Un peu que ça. Hein.
Quelles espèces, justement, Grégory Beaugrand, quelles espèces, très rapidement, sont les plus préoccupantes là, pour l'avenir ?
Nous, dans cette étude, nous n'observons pas d'extinction globale. Hein. Nous travaillons sur la réorganisation de la biodiversité. Ça signifie qu'on travaille sur le bilan local de biodiversité, s'il augmente ou s'il diminue. On montre ainsi qu'on a des changements de biodiversité qui ne seront pas uniformes à l'échelle de la planète. Dans les régions chaudes, on arrivera à une diminution du nombre d'espèces, une érosion du nombre d'espèces d'à peu près 10% dans le cas d'un scénario climatique moyen. Par contre, dans les régions tempérées et les régions polaires, on pourra avoir une augmentation de la biodiversité, c'est-à-dire dans les régions tempérées, une augmentation de la biodiversité aux alentours de 30%, ou même pouvant avoisiner 300% dans les régions polaires. Donc ce que nous montrons, c'est une réorganisation des systèmes biologiques à l'échelle globale.
Merci beaucoup à tous les deux, Gilles Boeuf et Grégory Beaugrand. Et donc, je rappelle que ça fait l'objet d'une publication qui vient tout juste de sortir dans Nature, Axel.
Climate Change, voilà. La revue qui s'intéresse au changement climatique.
Et vous
Merci
pouvez réécouter cette Une de la Science en la podcastant sur franceinter.fr. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, en mer d'ailleurs, toujours une découverte miraculeuse sur la côte est américaine. Des chercheurs ont observé la reproduction de femelles poissons-ci sans relation sexuelle avec des mâles. Ce phénomène appelé parthénogenèse est la création d'un embryon à partir d'un gamète femelle non fécondé. Ce mode de reproduction monoparentale était déjà connu chez certains reptiles. Il aurait tendance à arriver chez des espèces menacées quand les mâles se font rares et la reproduction difficile. Les chercheurs ont compté pour l'instant 7 naissances monoparentales, donc chez les poissons-ci. Les Français de moins en moins verts, selon une étude, près d'un sur quatre se désintéresse de l'écologie. Ils sont de plus en plus nombreux à penser que ça ne sert pas d'agir pour l'environnement si les autres ne le font pas. 20% se disent également prêts à le faire si ça leur fait gagner de l'argent. L'étude montre également un recul de 5% du tri des déchets. Et puis un mystère vieux d'un siècle, enfin résolu grâce à une équipe suisse qui a réussi à expliquer l'origine des trous du fromage. Il serait dû à la présence de particules de foin dans le lait. Pendant la fermentation, ces dernières dégagent des gaz qui créent des cavités. Ces travaux expliquent ainsi pourquoi les fromages sont de moins en moins troués. Les nouvelles techniques qui tendent à réduire les risques d'infections microbiologiques suppriment également une grande partie des particules de foin présentes dans le lait. Allez, on va traquer les substances chimiques dans un instant.
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
the joy and sidestep the little bits of history repeating.
Proper Heads avec History Repeating.
Bien, alors vous allez maintenant
la tête
tirer sur le masque pour libérer l'oxygène.
C'est la respiration du plongeur, exactement.
Il est un peu plaqué
sur France Inter.
Un peu plaqué aux jambes surtout.
Oui, les jambes de fer.
Et la tête
carré.
Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Et nous allons traquer cet après-midi les substances chimiques présentes dans notre quotidien pour essayer de comprendre d'abord comment nous en protéger. Patrice Halimi est notre invité en duplex d'Aix-en-Provence. Vous avez publié ce livre donc il y a quelques jours, La Grande Détox, comment éviter les poisons du quotidien chez Calman Lévy. Et puis Michel Aubier, vous êtes professeur de pneumologie à Paris Diderot et vous êtes chef du service de pneumologie à l'hôpital Bichat. Vous êtes l'auteur d'un livre, L'homme malade de son environnement, publié en 2013. Les questions arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux avec les messages courts. Patrice Halimi, en 2007, vous avez cofondé donc cette association Santé Environnement France qui rassemble aujourd'hui 2500 professionnels de santé. La mission de l'association, c'est d'informer les patients et le grand public justement autour de cette question des maladies liées à la pollution chimique.
Tout à fait. En fait, cette association, elle est née d'un constat. Les médecins, nous, quand on est souvent dans le soin, vous savez, vous êtes malade, on fait ce qu'on peut et on vous accompagne pour essayer d'être guéri. Mais on nous occupait pas et on nous posait pas de questions sur la santé. Or, la pression de l'environnement sur la santé, c'est quelque chose de très important. Et donc, de cet ennui, si vous voulez, qu'on nous questionne pas sur la santé, on s'est dit, il y a un travail à faire chez les médecins et c'est notre partie formation en direction des professionnels de santé. Et il y a surtout une partie information du public, information, j'allais dire, de l'ensemble de la population, de à la fois qu'est-ce qui peut être problématique et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut y faire, puisque comme vous l'avez bien dit, c'est une association de professionnels de santé, alerter c'est bien, mais surtout proposer quelque chose, c'est notre objectif.
Voilà, et l'idée du livre, ben, c'est la même chose, hein, justement, c'est de proposer des solutions pour diminuer donc ces risques liés à la pollution. Michel Aubier, donc pollution, bouleversement climatique, on en parlait encore avec la une de la science, la modification du mode de vie. Tout ça, c'est à l'origine de l'explosion de pathologies comme les allergies ou l'asthme.
Absolument, c'est à l'origine d'augmentation mais quasi épidémique de l'allergie et l'asthme, puisque depuis 30-40 ans, on observe à peu près un doublement, voire un triplement de ces pathologies. Oui. Et une étude qui est parue en 2000, donc sur une population écossaise, regardant sur une génération, donc les mères et les pères, les filles et les fils, et on observe une augmentation de l'asthme qui passe de 2% à peu près dans la population à plus de 10%, et dans la tranche des jeunes jusqu'à 25%, et de la rhinite allergique près de 40%, alors que c'était 8-10%. Donc c'est vraiment c'est quasi épidémique. Oui. Et ça ne peut être, les causes n'en sont qu'environnementales, puisque il faut certes une prédisposition génétique, mais nos gènes ne peuvent pas changer en une génération. Oui. Et donc c'est notre environnement qui est à l'origine de ces maladies allergiques, dont l'OMS a fait d'ailleurs une cause mondiale de santé publique. Oui.
Est-ce que vous observez à la loupe les études scientifiques venant de l'étranger? Je pense en particulier à ces villes asiatiques ultra polluées comme Shanghai ou Pékin. Qu'est-ce qu'elles indiquent justement sur les taux d'allergie dans la population?
On observe effectivement une très très nette augmentation des allergies, mais aussi on fait des allergies et des infections respiratoires, parce que donc ces particules sont extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont inhalées en quantité aussi importante qu'elles le sont dans ces villes chinoises ou dans les villes d'Amérique du Sud comme à Mexico. Et surtout, ces particules que l'on inhale restent dans le poumon. Il y a une étude qui a été faite à Mexico il y a une dizaine d'années sur des sujet qui était non fumeur d'une quarantaine d'années, mort accidentellement d'un accident de la voie publique, et donc ils ont autopsié les poumons et comparé ça à une population qui vivait à Vancouver, même type de population, donc dans un environnement non pollué, et on constate que chez les sujets qui vivent à Mexico, il y a ces particules qui restent dans le poumon et qui créent des lésions pulmonaires qui sont des lésions qui persistent et qui peuvent donc entraîner un certain nombre de pathologies chroniques, d'insuffisance respiratoire notamment.
Alors la pollution, c'est un domaine qu'on va explorer justement avec vous cet après-midi. Patrice Halimi, à quel moment finalement a commencé à prendre conscience des effets de la toxicité des molécules de synthèse sur la santé?
En fait, vous savez, il faut, si on est honnête, après la Seconde Guerre mondiale, on a produit beaucoup de ces molécules de synthèse parce que il fallait produire. On avait, en fait, le cahier des charges, il n'était pas du tout sanitaire. Mmh. C'était un cahier des charges sur à quoi voulait servir le produit. Je vous prends un exemple très connu, le PCB. On s'en est servi dans tous les isolants électriques. On s'en est même servi dans le chewing-gum. Et comme on prenait en compte l'effet aigu, vous étiez pas malade tout de suite, donc c'était pas toxique. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il y a des effets chroniques. On l'a bien connu avec l'amiante, mais l'invité sur le plateau, mon confrère, est largement plus compétent que moi pour en parler. On a connu aussi quelque chose, une révolution toxicologique. Avant, on partait sur le principe de Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément vrai. Pas pour tout et pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil, il y a des produits qui se combinent pour créer un effet. Mmh. Et puis ensuite, on n'est pas tous égaux. Vous voyez, moi, je suis un vieux monsieur, j'ai 48 ans, voilà, ma puberté, elle est finie. La problématique, elle est X. Par contre, un bébé, une femme enceinte, la même pensée n'est pas satisfaisante. Donc, vous voyez, on a fait une révolution entre ce principe d'innocuité qu'avaient ces substances chimiques et aujourd'hui les vraies questions qu'on pose. Vous savez, au début du protocole REACH européen, on disait globalement qu'il y avait 300 000 substances chimiques sur le marché.
Donc, c'est 2007.
Et qu'on en avait dosé 30 000.
Mmh. Et donc, aujourd'hui, on en a combien à peu près?
Le protocole REACH avance, mais on peut dire que globalement, on serait sur entre 50 et 60 000.
La pollution intérieure, on en parlait tout à l'heure avec vous justement, Michel Aubier, dans nos maisons, facteur de pollution très important. On va écouter l'extrait d'une émission d'Arte qui s'appelle Futur, et dans cet extrait, Gilles Emos, qui est de l'ADEME, l'Agence pour l'environnement de la maîtrise de l'énergie, fait un état des lieux justement de la pollution dans un appartement parisien.
Alors, si vous voulez, on peut partir à la traque des sources de polluants dans votre logement.
D'accord.
Une première chose qu'on peut repérer, c'est des bougies. On voit bien la petite fumée noire qui s'en échappe. Et donc ça, c'est beaucoup de particules, notamment, qui sont un polluant important de l'air intérieur. J'ai l'impression aussi que vous avez fait le ménage récemment.
Oui, ce matin, un petit peu.
En utilisant un produit dépoussiérant, j'imagine, parce qu'on le sent bien. Donc, les produits ménagers également peuvent être émissifs de d'autres composés, qui, notamment le formaldéhyde, qui est un des principaux polluants de l'air intérieur. Voilà typiquement un mobilier dans lequel il y a un certain nombre de matériaux qui ont été collés, vernis, peints, qui peut contenir des mousses, et donc qui est potentiellement émetteur, notamment de formaldéhyde.
Voilà, Michel Aubier, le formaldéhyde classé comme cancérogène certain en 2004, et qu'on trouve encore.
On en trouve partout, du formaldéhyde, il y en a dans tous les locaux. Le problème, ça dépend à quelle concentration. Mais c'est vrai que ces composés, ce qu'on appelle des composés, ça fait partie des composés organiques volatiles, hein, donc ils sont des composés chimiques extrêmement fréquents et nombreux. On les trouve dans les locaux et on les trouve à des concentrations souvent qui sont relativement élevées, dans la mesure où ces locaux, depuis les premières crises pétrolières de 73, ont été largement isolés pour économiser donc l'énergie, éviter les pertes énergétiques. Et donc ces locaux, en fait, sont vraiment clos, mal ventilés, et donc toutes les substances, notamment des meubles, des colles, des peintures, des mousses, donc produisent des formaldéhydes qui sont souvent en concentration importante.
Alors, Patrice Halimi, vous qui donnez des clés justement pour essayer de se débarrasser de toutes ces substances chimiques, comment on peut faire avec un exemple comme le formaldéhyde ?
Alors, je vous raconte une toute petite anecdote et j'arrive à ce que vous me dites. Vous savez, nous, on a dosé l'air dans des crèches. Parce qu'on s'est dit, les crèches, ça doit être propre, c'est nos enfants. En fait, on avait un peu la puce à l'oreille parce que les mamans nous avaient dit qu'il n'y avait pas de texte qui régissait ce qu'on doit mettre à l'intérieur d'une crèche. Mais on s'est rendu compte qu'en formaldéhyde, et c'est pour ça que j'arrive à la réponse, il y avait des taux qui étaient... si ça avait été un atelier de travail, il aurait fallu le fermer.
Mmh.
Voilà, il y avait nos enfants à l'intérieur. Et pour vous dire à quel point il y a cette présomption d'innocence. Mais la première chose, justement, par rapport à ce qu'on peut faire, c'est aérer. Voilà, même quand il fait froid, même quand il pleut, aérer votre intérieur. La deuxième chose, si vous achetez le lit pour bébé, voilà, je vais reprendre cette thématique. Si vous achetez le lit pour bébé, on est d'accord, quand maman est enceinte, on est à peu près au courant qu'elle est enceinte, donc on peut l'acheter bien avant, le mettre sur la terrasse, le mettre dans le jardin, ou mettre même dans une pièce excessivement ventilée, pour qu'il dégaze le maximum de formaldéhyde. afin que vous, lorsque vous mettiez dedans bébé, qui va y rester, on est bien d'accord, quand il est bébé le plus très longtemps, il ne respecte pas tout le formaldéhyde, il ne respire pas tout le formaldéhyde que va délivrer ce lit. L'intérêt, vous voyez, c'est que malheureusement, le formaldéhyde, vous pouvez pas l'éviter. Donc, il va falloir jouer avec l'aération, le choix sur les matériaux, bien entendu, et des fois, monter des meubles à l'extérieur de la pièce pour les remettre 3-4 mois après.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de questions et de messages des auditeurs qui arrivent. Vous allez y répondre dans quelques minutes. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams? What's the yams? Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta. Black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. When you got the yams. The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemies say. Oh yeah. Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from air when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with the gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah? Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. When you got the yams. The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammy fucker.
Kendrick Lamar et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de La Tête au Carré. La grande détox chez Calmann Lévy. Ce livre donc paraît. Vous en êtes l'auteur Patrice Halimi. Et puis à nos côtés également le professeur Michel Aubier. Beaucoup de messages, de questions des auditeurs. Fabrice nous dit ceci, Patrice Halimi. Pourquoi des substances dont la nocivité est éprouvée ne sont pas interdites? Je doute qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui soient pressés de mourir malades alors qu'il est normal qu'en démocratie nous ayons un mot à dire sur la question. On parlait de Rich justement tout à l'heure en 2007. C'était quand même une avancée importante dans le domaine de la toxicité, mais visiblement, c'est pas suffisant encore. Hein.
Parce qu'on a changé quelque chose de très important, c'est là justement la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que ce soit vous qui prouviez que la molécule était toxique. Maintenant, c'est au producteur, c'est au fabricant de prouver que sa molécule n'est pas toxique. Donc vous voyez, ça c'est déjà une importance. Par contre, j'allais dire, on part de très 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 loin, et ça il faut être très honnête, c'est-à-dire qu'on ne s'en est pas préoccupé pendant très longtemps, et aujourd'hui on se retrouve devant un océan, c'est pas pour faire un raccord avec le sujet précédent, mais voilà, on est avec un océan de molécules, et il faut les traiter, et puis vous imaginez bien les intérêts économiques, quand par contre vous parlez de peinture ou de ce qu'elle peut émettre, quand vous parlez de bois et du formaldéhyde, c'est pas des choses qui se font toutes seules, c'est des choses qui sont de façon compliquée. Et bien souvent, je dirais qu'on se rétracte devant quelque chose qui s'appellerait ce que je vous disais, l'ancienne toxicologie, c'est-à-dire qu'on a des doses minimes. Mais en fait, vous, aujourd'hui, vous choisissez pas de respirer juste le formaldéhyde, du studio, et puis plus rien. Non, vous respirez le formaldéhyde du studio, vous allez chez vous, il y a des meubles en bois, et en fait, on s'est trop souvent, je vous dis, positionné du côté de la molécule, et pas assez du côté du pollué.
Michel Aubier, cette question de Dominique sur franceinter.fr. Comment vous expliquez la flambée de l'asthme en France depuis 30 ans, alors que les émissions de polluants ont été divisées par deux pendant la même période?
Alors, cette augmentation du nombre d'asthmatiques, en fait, elle est multifactorielle. La pollution est un des facteurs, mais pas le seul. En fait, c'est lié à notre mode de vie occidental. C'est-à-dire le fait que on passe 95% de notre temps, 90% dans les locaux, dans lesquels on a des polluants, mais aussi des allergènes, des acariens, des poils d'animaux domestiques, des plantes, des moisissures, etc. On a également modifié notre alimentation, et cette alimentation est beaucoup plus industrielle, donc moins de produits frais qui comportent des antioxydants, qui permettent de contrôler un peu l'inflammation des bronches qui caractérise l'asthme. Et puis dans cette alimentation industrielle, il y a beaucoup d'allergènes qui ne sont pas connus, parce que le consommateur ne connaît pas, de l'huile d'arachide, des extraits de cacahuètes, etc. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, c'est que on a un environnement beaucoup plus propre qu'auparavant, on fait beaucoup moins d'infections de la petite enfance, de la toute petite enfance, qui est très bien. Mais du coup, notre système immunitaire n'est pas stimulé à la naissance. Et donc, au lieu de s'orienter vers des défenses anti-infectieuses, eh bien, il va s'orienter en générant des réactions contre des allergènes contre lesquels, normalement, il ne devrait pas réagir. Et donc, en fait, tout cela est multifactoriel.
Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a moins d'émissions de polluants depuis quelques années, et que finalement, au fond, cette explosion de l'asthme serait due à ces autres facteurs que vous décrivez.
Et aussi à certains polluants, parce qu'il est vrai que la pollution en général a diminué. Par exemple, si on prend les particules, dans les années 50, dans l'épisode de Fogg à Londres ou la vallée de la Meuse, on mesurait ces particules en milligrammes par mètre cube. Maintenant, les particules, on les mesure en microgrammes par mètre cube, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des particules beaucoup plus fines, qui pénètrent beaucoup plus profondément dans notre poumon. Et puis, il y a aussi une pollution photooxydante. Il y a l'ozone, aux oxydes d'azote, qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'avant, on avait une pollution qui était de grosses particules et qui était plutôt une pollution acide. Vous vous souvenez des plus acides des années 70-80. Ceci, ça a complètement disparu. Le dioxyde de soufre, par exemple, a été divisé par 10, effectivement. Mais par contre, d'autres polluants ont augmenté et interagissent notamment avec les pollens. Et vu du fait du réchauffement climatique, l'exposition au pollen que nous avons est beaucoup plus longue et beaucoup plus importante. Donc tout ceci interagit, c'est-à-dire il y a une pollution biologique liée donc à ces pollens qui sont en nombre plus important et plus agressif, et à cette pollution qui interagit avec ces pollens.
Enfin, les messages sont quand même compliqués à saisir, parce qu'à la fois on dit qu'il faut aérer à l'intérieur parce qu'il est extrêmement pollué, mais on aère avec quoi? Avec des polluants qui viennent de l'extérieur aussi?
C'est vrai que le message n'est pas très clair, mais il faut quand même aérer les locaux, ça c'est quand même un point absolument fondamental, et donc je rejoins dans ce qui a été dit tout à l'heure, il faut aérer les locaux pour enlever tous les polluants qui sont à l'intérieur, et puis éviter justement qu'il y ait des moisissures, etc. Mais il faut quand même dire, on n'en a pas parlé, que le principal polluant intérieur, c'est la fumée de tabac. C'est de loin le plus dangereux.
cette question de Odile. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système des poussettes? Les enfants étant au ras des pâquerettes, ne respirent-ils pas de l'air contaminé en ville?
Alors c'est vrai que dans les rues donc où il y a une grande circulation automobile et que l'on promène donc les enfants dans ces petites poussettes au ras du sol, c'est pas très bon, ils sont au niveau des gaz d'échappement. Donc il vaut mieux éviter de les promener dans ces endroits-là.
On va pas mettre de masque aux enfants quand
même. On va
pas
mettre de masque aux enfants, non. Ou alors mettre des poussettes qui sont plus hautes de manière à ce qu'ils soient pas au niveau du pot d'échappement.
Patrice Halimi, justement, cette dérive hygiéniste, vous parlez même d'un délire en la matière hein, dans votre ouvrage.
Oui, parce que j'ai toujours été étonné par certaines publicités. On vous explique qu'on va enlever toutes les bactéries de votre peau. Plus rien n'existera. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la mort, le désert, ou la planète Mars. Enfin, je sais pas, en fait, il y a Mars, il y a des bactéries ou pas. Mais ce que je vais expliquer, c'est que tout ça n'a pas de sens. Je suis chirurgien, j'ai l'habitude de me laver stérilement les mains, c'est même mon métier. Mais on le fait pas tout le temps. Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains de façon répétée. Et je suis plutôt pour qu'on ait cette hygiène de vie-là. Mais lorsqu'on met des produits comme, pour le citer, le triclosan, dont on connaît les effets toxiques, tout ça pour tuer toutes les bactéries qu'il y a sur notre peau, c'est juste non-sens.
On va écouter justement Patrice Halimi, l'extrait d'un reportage qui a été diffusé sur France 5 avec une femme atteinte d'un cancer du sein à un âge précoce et qui se voit conseiller par son cancérologue d'observer attentivement les composants de ses produits d'hygiène et en particulier les déodorants.
Plus des deux tiers des déodorants du marché contiennent des composés d'aluminium comme principe actif. Le métal agit sur les cellules de la peau en bouchant les conduits, ce qui bloque la transpiration.
J'ai d'abord été amputée du sein. Ensuite, j'ai subi 6 séances de chimiothérapie, 6 semaines de radiothérapie et 18 injections d'anticorps. Maintenant, j'espère que j'en ai fini pour toujours et que j'aurai jamais à recommencer tout ça.
La tumeur était à gauche. Où exactement?
Sur le dessus.
Les études faites dans les années 30 et 40 montraient que 30% des cancers survenaient dans cette région du sein. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 60%. La raison avancée est qu'il y a davantage de tissus dans cette zone, mais ça ne tient plus. Il y a une autre explication possible. Il s'agit de la zone où on applique des substances chimiques.
Alors, Patrice Halimi, on va pas faire le lien direct, évidemment, entre le cancer du sein et le déodorant, mais en tout cas, montrer à quel point les produits d'hygiène doivent être scrupuleusement observés, c'est ça?
Oui, parce que vous savez, vous avez bien vu les publicités. On confond soins et cosmétiques, hein. C'est-à-dire c'est des gens en blanc qui vous vendent quelque chose qui est formidable. La problématique, par exemple pour les déodorants, c'est qu'on s'est rendu compte que ben, les parabènes, ça a un rôle dans le cancer du sein. Hein. C'est pas moi qui le dis, voilà, ça a été décrit, ça a été prouvé. Et puis, si on avance, ils ont remplacé les parabènes, et le zéro parabène n'est pas totalement satisfaisant, puisque oui, c'est bien qu'il y ait zéro parabène, mais les sels d'aluminium, c'est pas mieux non plus. Donc, l'idée, c'est que oui, ça oblige les gens à réfléchir à, dans leur choix d'achat, par exemple des déodorants. Et il faut qu'à côté du critère de l'odeur, du critère de prix, il y a un critère sanitaire qui se met en route. Parce que les sels d'aluminium, il y en a. Et puis même, dans l'idée, on veut vous empêcher de transpirer. Bah, votre peau, elle sert aussi à ça. Alors c'est quand même compliqué de dire qu'on va vous artificialiser complètement la survie. Donc l'idée, c'est bien sûr, je suis comme tout le monde, je souhaite ne pas avoir d'odeur désagréable, mais il faut réfléchir et regarder ce que vous prenez.
Michel Aubier.
Non, je pense que l'histoire des déodorants, les déodorants n'empêchent pas de transpirer, mais c'est l'odeur, effectivement. Donc il faut savoir lequel on choisit. Et en même temps, c'est vrai que tous les cosmétiques, tout ce qu'on se met sur la peau, c'est pas bon du tout, et d'ailleurs chez les tout petits c'est à l'origine de dermatite atopique souvent sévère, parce que ce qu'il faut c'est graisser la peau au contraire pour qu'elle soit bien souple, et puis surtout ne pas enlever les bactéries qu'il y a sur la peau. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Ce microbiote donc permet un équilibre justement avec l'environnement, et ce microbiote joue un rôle clé.
Ça veut dire quoi?
Dans nos défenses immunitaires,
abandonner les savons, faut ne plus shampooiner,
faut pas du tout abandonner les savons, mais faut prendre du savon naturel. Il faut se laver bien sûr, mais il ne faut pas être donc propre à l'extrême. C'est la théorie hygiéniste, et elle a montré par exemple que pour les tout petits, le doudou des petits là, qui est souvent dégueulasse, poussiéreux, voilà, parce qu'il traîne par terre, et ben en fait c'est plutôt bon. Mais lorsque on le lave souvent et qu'il a plus son doudou et qu'il est dans un environnement trop propre, qu'il traîne pas par terre,
et qu'il sent la lessive à planer,
ben il devient allergique.
Ah ben voilà, donc laissez les doudous par terre de vos enfants, ils s'en porteront pas plus mal. Vous restez avec nous dans un instant, dernière partie de ce dossier avec les messages toujours sur franceinter.fr.
loin de la plage, la terre soudain comme un mirage.
La vague, Isia sur France Inter.
Pas le moindre signal radio sur Onde Courte jusqu'à présent.
Carré.
Rien encore, commandant. Liaison radio, on entend une voix ici.
Mathieu Vidard.
Humaine, on dirait. Poussez le son.
Sur France Inter.
Les poisons du quotidien, mes invités, donc le chirurgien Patrice Halimi et le professeur Michel Aubier. Beaucoup de messages, Anne nous dit, est-ce que s'exposer moins permettrait d'être réellement moins malade? On dit que ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la fréquence des expositions, la diversité des polluants. Il est techniquement, dit Anne, très compliqué de ne pas s'exposer du tout, même si je fais attention à mes pratiques et à ma nourriture. Je ne peux quand même pas m'arrêter de boire et de respirer. Quelles seraient les meilleures solutions sur ces deux derniers points, peut-être, Michel Aubier?
Surtout pas s'arrêter de respirer,
c'est embêtant.
Ça serait très embêtant. Non, je pense qu'il faut essayer d'une part d'aérer les locaux, deuxièmement d'éviter les expositions à toute la pollution biologique, et ça c'est tout à fait possible, c'est-à-dire éviter de mettre des plantes vertes, notamment dans son appartement et dans sa chambre, parce que certaines plantes, comme les ficus, sont très allergéniques, la terre humide des plantes fait proliférer des moisissures, notamment les alternaria, qui sont également très allergisantes. Et puis, à essayer à l'intérieur de son appartement ou de sa maison, éviter les sources de pollution, c'est-à-dire tout ce qui est encens, tout ce qui est bougie, tout ce qui est vaporiseur, parfum intérieur, etc.
Il y a des études très récentes là-dessus, d'ailleurs.
Il y a des études récentes qui montrent vraiment la toxicité de ces produits. Quand on est dans sa cuisine, quand on cuisine au gaz et qu'on fait des frites, on dégage des aldéhydes, de l'acroléine, on dégage du NO2 à des concentrations ventilation, souvent beaucoup plus importante qu'à l'extérieur. Donc il faut bien aérer les locaux et avoir un local, un appartement qui est bien ventilé, pas trop chaud, pas trop humide.
Patrice Halimi, les mesures pour un ménage sain, s'il vous plaît, quelques clés comme ça rapidement.
D'abord, il faut arrêter le mythe de la Javel. C'est pas un super bon produit, surtout dans les doses qu'on en met, c'est-à-dire qu'au plus il y en a, au plus c'est propre, c'est pas vrai, au plus il y en a, au plus c'est irritant. Il faut éviter de multiplier tous ces produits qui sont pour but de tout faire, sont très agressifs, et donc sont agressifs aussi pour nous, à la fois sur la peau, à la fois respiratoirement, et souvent c'est des perturbateurs endocriniens. Il faut revenir à des choses simples, des choses que nous connaissons, le savon, l'eau, le savon noir, vous voyez, des choses excessivement simples. Et puis surtout, je suis bien d'accord avec l'interlocutrice. Oui, c'est vrai, je ne pourrais pas tout éviter. Il n'y a pas de souci. Mais si j'essaye d'enlever ce qui est à ma portée et qui m'est facile à enlever et ça ne m'enlève aucun service, pourquoi est-ce que je m'en priverais? Et c'est bien l'intérêt de votre émission, par exemple, c'est de, par la connaissance, se libérer de ces servitudes-là. Ben, globalement, il y a en effet un bain chimique dans lequel nous sommes, nous vivons, mais si je peux ne pas rajouter dans mon caddie personnel des produits dont je peux me passer, et que l'on me met dans mon caddie sans me le demander, autant que je sois assez informé pour le faire.
Michel Aubier, Catherine nous dit, j'habite près d'une fonderie qui dégage dans l'atmosphère des fumées nauséabondes, des poussières de métaux et des composés organiques volatiles. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur notre santé de cette proximité?
On peut tout à fait le mesurer. Donc ces particules, notamment des fonderies ou fourneaux, sont très dangereuses et toxiques. Ça entraîne un certain nombre de maladies professionnelles chez les gens qui sont exposés. Et donc autour des sites industriels, on peut effectivement mesurer donc la quantité de particules, la quantité de SO2, donc la quantité de polluants qui sont émises par ces installations industrielles. Et ça, normalement, ça doit être fait. C'est réglementaire. Donc ça, c'est la loi. Donc ça doit être fait, mais effectivement, ça a des effets qui peuvent être très délétères.
Patrice Halimi, il y a beaucoup de questions sur les lessives et les adoucissants. Jérôme, Christian, qu'est-ce que vous pensez de la lessive faite maison, par exemple, face aux lessives qu'on peut trouver dans le commerce? Et puis, est-ce qu'on peut se renseigner justement sur la teneur des produits et leurs conséquences, là aussi, sur la santé?
Alors, c'est clair que, de toute façon, dans toutes les lessives, il y a écrit ce qu'il y a. Mais prendre la lessive la plus simple du monde, se donner, de pas multiplier, et puis se servir des écolabels, on est d'accord. Ça existe, des écolabels qui vous assurent, dans les labels, par exemple, de lessive bio, qu'il n'y a pas de produits toxiques, pas perturbateurs endocriniens et pas irritants. Et je pense souvent aux bébés, et je dis qu'il faut être quand même assez vigilant de pas les décaper, leur décaper la peau.
Et il faut se fier aussi aux produits d'origine naturelle, aux étiquettes en tout cas.
Alors, je me méfie de ça, vous savez, j'ai jamais bien compris le mot. Je préfère un label bien clair où tout le monde est bien d'accord et avec un cahier des charges. Parce que vous voyez, pour vous donner un exemple, la manie de phalloïde, c'est très naturel et je vous conseille pas d'en manger.
C'est vrai, oui. Viron nous dit ceci, que deviennent les déchets hospitaliers? Est-ce qu'on ne les retrouve pas dans les stations d'épuration non traitées, dans les rivières, dans les océans, professeur Aubier?
Non, les déchets hospitaliers sont incinérés, ça pose pas de problème. Par contre, ce qu'on trouve dans les rivières, c'est des traces de médicaments, donc que l'on donne d'abord aux bovins, aux ovins, enfin les animaux d'élevage, et puis aussi des déjections, donc nos déjections, quand on prend des antibiotiques, quand on prend des médicaments, on en retrouve des quantités souvent importantes dans l'eau, dans les rivières, ouais, absolument.
Véronique demande, est-ce qu'il est possible de se faire analyser le sang, les cheveux, les graisses pour établir l'état des pollutions que nous accumulons? C'est possible ça?
C'est tout à fait possible, notamment pour les cheveux.
Il y a des labos dédiés.
Il y a des laboratoires qui font ça, oui, donc ils permettent sur les cheveux, donc peuvent analyser le type de produit auquel vous êtes exposé dans votre environnement.
Et après, on en fait quoi alors du coup?
Eh ben, après, on en fait ce qu'on veut. Enfin, bon, en tout cas, on fait le ménage, mais un certain nombre de produits, en tout cas, que l'on peut essayer d'éviter, mais on peut avoir effectivement un catalogue de ce à quoi on est exposé.
Laetitia nous dit, on habite aux États-Unis. L'école recommande ici les hand sanitizers à tout va. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les produits, justement,
ce sont les produits qui permettent, en fait, de laver les mains. Alors, bon, c'est toujours pareil. Le message est compliqué parce que
l'hygiène. Elle nous dit, ma fille a développé un eczéma sur les mains.
Absolument. Donc, effectivement, se désinfecter les mains, se laver les mains une fois qu'on est aux toilettes, c'est important. Mais par contre, des produits sont extrêmement irritants et agressifs et peuvent entraîner donc des maladies de la peau, notamment des eczémas, qui peuvent être assez embêtants.
Autre pollution pour certains, en tout cas, même si la littérature scientifique ne nous dit pas grand-chose pour l'instant, c'est l'électro-hypersensibilité. En tout cas, les victimes de ce syndrome seraient évaluées entre 3 et 6% dans la population. Extrait d'un documentaire d'Arte, Sous le feu des ondes.
une déchéance en fait au niveau de mon état de santé.
J'ai senti une vague qui m'a traversé avec une perte de mémoire immédiate, une perte de concentration, une espèce de flou.
C'est quelque chose de à l'intérieur de la tête. Je me sens électrisé, électrifié.
Nous sommes tous environnés dans un brouillard, comme un peu aujourd'hui ce brouillard dehors, n'est-ce pas, qu'on voit. Et ce brouillard électromagnétique, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et il y a quand même des effets à la longue.
Aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là. Ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable.
Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population. Et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés et que de toute façon, ils sont minoritaires. C'est pas très grave. Ce qui est véritablement scandaleux.
Patrice Halimi, le problème c'est qu'effectivement les études scientifiques sont pas très nombreuses et souvent même très contradictoires quand même sur cette question des ondes électromagnétiques.
Je suis bien d'accord, il faut appréhender l'incertitude. Et le temps scientifique n'est pas le temps médical. Et il faut respecter le temps scientifique, et ça je tiens à le dire, c'est-à-dire que oui, des fois la science avance par controverse, et il faut le respecter.
Sauf que là, il y a des suspicions pour l'instant.
Voilà, exactement. Et sauf qu'ici et maintenant, moi je dois proposer quelque chose à la personne que j'ai en face. Mais souvent je dis qu'il faudrait agir sans regret ni remords. C'est-à-dire que le téléphone portable, vous en servez, moi aussi, il y a des antennes, on est d'accord. En fait, on est d'accord si on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut peut-être téléphoner de façon intelligente. Peut-être que les kits main libre, c'est très important. Peut-être que quand on ne se sert pas du téléphone, on peut le couper. La nuit, c'est très rare qu'on passe notre nuit au téléphone. Peut-être que quand vous ne servez pas d'Internet, chez vous, le Wi-Fi, vous pouvez le couper. Ensuite, les antennes, on n'est pas obligé de les mettre n'importe où, juste ayant pour but de couvrir un territoire. On peut réfléchir où on les met. En clair, on se met en position de, si dans 20 ans, ou dans 10, on nous affirme qu'il y a une toxicité certaine, on ne regrettera pas de ce qu'on a fait. Et pour les hypersensibles, oui, il y a un truc que je suis bien d'accord, c'est que je ne sais pas, mais dans « je ne sais pas », ça ne veut pas dire que je les case dans la case psychiatrique. Ce n'est pas parce que je ne sais pas ce qu'ils ont qu'ils sont fous.
Michel Aubier ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'études sur les ondes électromagnétiques. Les études sont assez contradictoires. La majorité d'entre elles montrent a priori qu'il n'y a aucun effet. Mais cela étant, il y a une question scientifique. Et le temps scientifique, comme on vient de le dire, ça peut être long. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Et donc, voilà. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions. Mais quand même pas tomber dans l'excès.
Allez, un dernier message de Laurence Quid du tabagisme passif quand un voisin fume sur son balcon, que les chambres d'enfants puent le tabac, fenêtres fermées. Pas de loi par contre, interdiction d'étendre son linge, pourtant écologique, sur le balcon. Voilà toutes ces contradictions pointées par les auditeurs.
Voilà, mais le tabac, c'est le premier polluant de l'air intérieur.
Et Patrice Halimi, vous parlez également beaucoup d'alimentation dans votre ouvrage. On laisse le soin à ceux qui le souhaitent de le découvrir. Ça s'appelle La Grande Détox, comment éviter les poisons du quotidien. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Kelman Lévy. Et puis, professeur Aubier, on peut toujours lire aussi ce livre que vous avez édité chez Plon en 2013 et qui reste disponible, L'homme malade de son environnement, dans lequel vous parlez en particulier des allergies et de l'asthme. Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre studio. Merci à vous Patrice Halimi et aux équipes de France Bleu à Aix-en-Provence qui nous ont permis d'établir ce duplex.